Nous sommes devant la façade de la cathédrale Saint-Pierre. Prenez suffisamment de recul pour l'observer.
La cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême représente un événement majeur dans l'évolution de l'art roman. Son architecture inspirera par la suite, avec quelques variantes, bon nombre d'édifices de la région. Sa construction, au tout début du XIIe siècle, dure une trentaine d'années. Elle se fait sous la direction de Girard II, évêque d'Angoulême, un personnage hors du commun. Cet ecclésiastique est successivement enseignant, évêque et légat de quatre papes, c'est-à-dire chargé de faire appliquer en leur nom les réformes en cours.
Autrement dit, il avait le bras long.
Il est aussi l'ami et le conseiller des ducs d'Aquitaine et des comtes d'Angoulême, ce qui lui permet d'intervenir dans la diplomatie de son époque. Il exercera sa charge pendant 24 ans.
Le temps de célébrer 8 conciles et de faire d'Angoulême un centre de la chrétienté qui méritera bien un édifice digne de son rang, la cathédrale qui se dresse devant nous.
Girard II obtiendra les moyens nécessaires pour mener à bien cet ambitieux chantier en faisant venir des maîtres d'œuvre et tailleurs de pierre de grande qualité. Imaginons-le en train de nous présenter son projet.
Tout d'abord, nous choisirons un couvrement en fil de coupole inspiré par l'Orient byzantin. 3 coupoles et rien de moins pour aménager de larges espaces intérieurs. Ainsi, la voûte céleste dominera le carré de la travée. 2 grands clochers-lanternes illumineront le cœur de notre cathédrale et porteront plus haut nos chants sacrés. Sur la façade, nous verrons la Vierge Marie et les apôtres assister à l'ascension du Christ. Et pour que chacun se souvienne qu'un jour sonne l'heure, l'évocation du jugement dernier restera à jamais gravée dans la pierre.
Oui, mais les grands projets architecturaux n'ont pas fait le poids face aux accidents de l'histoire.
Effectivement, en 1568, l'un des clochers tombe sous les boulets de canon huguenots. Les coupoles et le mobilier font aussi les frais de ce nouvel affrontement entre catholiques et protestants. La cathédrale, déjà saccagée quelques années plus tôt, est incendiée. Du clocher détruit, il ne reste que sa partie basse, aménagée en sacristie. La restauration menée au XIXe siècle par Paul Abadifis modifie profondément, de façon outrancière pour certains, la cathédrale. Elle est pourtant dans la droite ligne de la pensée de l'architecte Viollet-le-Duc qui disait
« Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. »
Finalement, c'est la façade qui sera la moins touchée. On remplace le tympan central, la demi-lune au-dessus du portail, certaines têtes et tout en haut, les 2 clochetons dits Poitevin et le pignon triangulaire.
On rajoute aussi les 2 statues équestres au-dessus du portail. Vous les voyez ? À gauche, c'est Saint-Georges qui tue le dragon, assisté par un ange. Et à droite, Saint-Martin qui partage son manteau avec un pauvre.
Cette restauration néo-médiévale, censée recréer l'esprit du XIIe siècle, sera controversée. Mais elle permettra tout de même de sauver la cathédrale qui était en très mauvais état. Cette façade écran compte 75 sculptures. La partie basse originelle comprend 4 tympans, représentant les apôtres qui partent évangéliser le monde. Et le tympan central a été recréé au XIXe siècle. Au-dessus du vitrail, sur 2 rangées, la Vierge et les 11 apôtres assistent à l'ascension du Christ représenté plus haut, entouré du tétramorphe.
Le tétra quoi ?
Le tétramorphe. Il met en scène les 4 vivants qui entourent le trône divin. Ils sont symbolisés ici par 4 animaux ailés servant d'emblème aux 4 évangélistes. Le lion pour Marc, le taureau pour Luc, l'homme pour Matthieu et l'aigle pour Jean. Autre thème évoqué sur la façade, le jugement dernier, observé de part et d'autre des 11 apôtres, sous les arcades extérieures de la façade, les damnés sont malmenés par les diables. Ils subissent leur châtiment pendant que les élus, naturellement, au-dessus, dansent sous les arcades. Laissez à nouveau descendre votre regard, sous le tympan, à droite du portail. Une frise retrace un épisode de la chanson de Roland. Approchez-vous pour l'observer. Elle illustre un haut fait d'armes survenu pendant la construction de l'édifice, la reconquête de Saragosse, alors aux mains des musulmans, par les croisés chrétiens, avec parmi eux les seigneurs du Poitou et d'Aquitaine.
On ne parlait pas encore d'informations en temps réel, mais cette une de l'époque où mythe et réalité se confondent s'affichait déjà entre les colonnes.
Aujourd'hui, les restaurations se font plus douces afin que cette belle pierre charentaise, sa blondeur retrouvée, se joue du moindre rayon de soleil.
Bien, partons maintenant en direction du square Saint-André. Là-bas, un ange nous attend. Face à la cathédrale, prenez à gauche la rue du Minage et ensuite la première à droite. Vous voici rue de Beaulieu, où sur votre droite, vous pourrez admirer l'étonnant effet de relief de la fresque « Réalité, sortie de secours » d'après Marc-Antoine Mathieu. Poursuivez tout droit et traversez la place Francis-Louvel, plus familièrement appelée la place du Palais de Justice. À l'angle gauche du bâtiment, trois rues. Prenez celle du milieu, vous apercevez déjà l'ange qui domine le square Saint-André. Installez-vous sur le banc, c'est notre prochain rendez-vous.